Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire. Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là pour ces 30 minutes de C'est bon pour la santé sur Canal M. De plus en plus de consommateurs, moi comprise, veulent acheter des aliments dits santé. Et évidemment, les grandes chaînes de supermarchés ont compris ça et tentent de faciliter nos vies en proposant sur leurs tablettes des marques comme, et vous allez probablement les reconnaître là, Menu Bleu, Équilibre, Mieux-être également. Mais est-ce que ce sont vraiment de meilleurs choix? Je poserai cette question en deuxième partie d'émission au nutritionniste Bernard Lavallée. Mais d'abord, l'utilisation d'Internet, c'est vraiment au cœur de notre quotidien en 2015 et ça prend beaucoup d'importance, notamment pour les jeunes. Il y a d'ailleurs des données assez récentes publiées par le CEFRIO en 2011 qui révèlent que 96 % des adultes québécois âgés entre 18 et 34 ans utilisent Internet. Il n'y avait pas de données pour des plus jeunes, là, notamment des adolescents, mais ça serait intéressant que ça soit fait parce que je pense que pour entrer en contact avec cette génération-là, autant des ados que de jeunes adultes, Internet, ça devient quasi un incontournable. Et cet attrait pour Internet est le même pour les jeunes qui vivent avec une déficience intellectuelle, mais ce sont des jeunes qui parfois sont plus vulnérables pour différentes raisons et l'impact et les enjeux ne sont pas toujours les mêmes. J'en parle avec Carole Boucher, sexologue en déficience intellectuelle au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de la Mauricie et du Centre du Québec. Carole Boucher, bonjour.
Bonjour, Madame Paquette.
Un plaisir de vous retrouver.
Ça me fait plaisir aussi.
Ça faisait un petit bout.
Oui.
Carole Boucher, je le disais en introduction, les jeunes aiment pouvoir entrer en contact, communiquer par Internet. C'est leur façon de faire. Est-ce la même chose pour les jeunes qui ont une déficience intellectuelle?
C'est sûr qu'il faut faire des différences quand on parle de la déficience intellectuelle, mais chez les jeunes qui présentent une déficience intellectuelle légère et qui ont plus de facilité au niveau de l'écriture et de la lecture, Internet, le web, c'est drôlement intéressant pour apprendre des choses et pour y rencontrer des gens, bien sûr.
Mm-hmm. Parce que, bien sûr, au cours de notre discussion, on va peut-être plus parler des risques associés à l'utilisation d'Internet, mais il y a quand même des bienfaits. Ça peut briser l'isolement, puis faciliter le contact avec les autres.
Tout à fait. Puis on peut apprendre plein de choses sur Internet. Ça peut être très, très, très positif. Mais autant ça peut être positif, autant ça peut créer des dégâts chez notre clientèle qui présente une déficience intellectuelle, surtout quand on parle de la sexualité, bien sûr.
Bien sûr. Vous êtes sexologue, donc on pourra en parler davantage. Mais juste avant, je disais également en introduction que ce sont parfois des jeunes plus vulnérables et j'aimerais ça que vous nous expliquiez pourquoi.
Effectivement, nos personnes qui vivent avec des déficiences intellectuelles sont extrêmement vulnérables pour toutes sortes de raisons. Tout d'abord, ils ont une très faible estime d'eux-mêmes. C'est noté et c'est étudié beaucoup, beaucoup. Ils sont souvent victimes de harcèlement, de violences de toutes sortes, d'abus de toutes sortes. Ils comprennent pas toujours les messages clairement que les gens envoient. Donc, tous ces éléments de vulnérabilité vont toujours être présents, même s'ils sont sur Internet.
Mm-hmm.
Donc, ça risque d'augmenter leur vulnérabilité sur Internet et puis de faire d'eux des victimes potentielles, bien sûr.
Et il y a aussi, et on avait eu l'occasion d'en discuter lors de nos précédentes discussions, le manque d'éducation sexuelle qui peut accroître le risque quand on ne connaît pas les limites, par exemple.
Tout à fait. Alors, quand on n'a pas de réponse à nos questions, qu'on connaît pas la sexualité, qu'on n'a pas été éduqué, qu'on nous a pas parlé du consentement, entre autres, qu'on nous a pas parlé du respect de soi et du respect de l'autre, c'est sûr que ça va être difficile de faire des choix éclairés par rapport à la sexualité sur un médium comme Internet.
Oui. Et vous parliez, je trouve ça très, très intéressant, la reconnaissance des indices sociaux qui peut être parfois plus difficile pour ces jeunes-là, notamment en face-à-face, mais quand ça devient sur Internet, ça devient encore plus ardu.
Il n'y a aucun contrôle. Si tu es tout seul devant l'ordinateur, il n'y a pas un petit bonhomme qui apparaît dans l'écran puis qui dit « Attention, ça se passe pas comme ça dans la réalité. » Si tu chattes avec quelqu'un, il n'y a pas non plus un petit bonhomme qui apparaît dans l'écran puis qui te dit « Attention, cette personne-là est en train de te mentir parce que n'importe qui peut mentir dans ce genre de conversation ou de contact. » Alors, effectivement, la personne est seule devant son écran puis il n'y a pas personne pour lui expliquer que peut-être être en train de se faire avoir par quelque chose de pas correct. Là.
Mm-hmm. On a parlé de chat, Carole Boucher. Est-ce que leurs intérêts, l'intérêt des jeunes qui ont déficience intellectuelle, sont les mêmes que pour les adolescents que l'on côtoie, nous, au quotidien, c'est-à-dire bon, les chats, les sites de rencontres, les médias sociaux, également la pornographie?
C'est sûr qu'une des caractéristiques des personnes qui présentent une déficience, quand on parle de leur vulnérabilité, c'est un réseau social extrêmement faible. Alors, ils ont plus de difficultés à se faire des amis, ils ont plus de difficultés à maintenir des contacts, ils ont plus de difficultés à avoir des relations amoureuses, bien sûr, à fréquenter des gens. Donc, tous ces médias-là qui permettent de rencontrer des gens, de parler avec des gens, c'est un moyen pour eux d'avoir un contact avec du monde. Mm-hmm. Maintenant, on sait que ça cause énormément de problèmes parce que on peut facilement leur mentir. Ils seront pas capables de détecter que la personne qui parle dit la bonne chose ou dit la chose vraie. Et puis, ils sont extrêmement vulnérables aussi à donner des informations les concernant. Alors, c'est facile pour eux de donner leur nom véritable, leur adresse véritable, leur numéro de téléphone véritable, ce qu'ils font quand il y a du monde à la maison, quand il n'y a pas de monde. Alors, ils donnent vraiment toutes les informations sans être conscients du risque qu'ils prennent en faisant ça, bien sûr.
Donc, ils sont plus vulnérables aux abus.
Extrêmement vulnérables, puis ils vont être vulnérables sur Internet, aux abus sur Internet. Alors, on sait qu'il y a des gens qui vont se faire ridiculiser sur Internet. D'abord, juste au niveau de l'écriture, hein, ils risquent d'avoir un peu de difficulté dans l'écriture. Alors, ils vont se faire repérer facilement. Ils risquent d'être ridiculisés. Tant mieux s'ils rencontrent des gens puis que ça va bien, on leur souhaite, là, mais c'est pas souvent ça qui arrive. Ils risquent de se faire prendre dans des petits réseaux de peut-être qu'il y a de la prostitution qui s'organise de cette façon-là. Si tu me donnes ton adresse, je vais aller chez toi ou je vais envoyer quelqu'un chez toi de cette façon-là. Et je vous dirais que le plus risqué, à mon sens, c'est vraiment la webcam.
Mm-hmm.
Alors, quand ils ont une webcam et qu'on leur demande de se découvrir et d'avoir des comportements sexuels sur la webcam, c'est catastrophique parce qu'ils comprennent pas, si on leur a pas expliqué, que ce qui se trouve sur le web devient universel.
Oui, ouais, ça ne s'efface pas, hein, ça reste toujours présent.
Oui, exactement, et n'importe qui peut utiliser et s'en servir.
Mm-hmm.
Alors, il faut faire beaucoup, beaucoup d'éducation avec eux pour leur apprendre ce que c'est Internet et comment on peut utiliser Internet.
Il y a également l'intimidation. On le sait, et ça, c'est pour tous les adolescents qui fréquentent les médias sociaux. L'intimidation qui se fait, que ce soit sur Facebook, par exemple, bien, elle se répercute jusqu'à la maison parce que l'ordinateur nous suit partout. Donc, ils sont également, j'imagine, plus vulnérables à l'intimidation.
Aussi, c'est sûr qu'à l'intimidation en réel, ça fait très mal, hein? La personne est devant toi, elle te bouscule, elle te dit des mots grossiers ou bon, peu importe. Sur Internet, ça risque d'être un petit peu plus difficile à percevoir pour nos personnes déficientes, mm-hmm. parce que la personne n'est pas là en réalité, mais effectivement, l'intimidation peut être tout aussi importante oui. chez cette clientèle-là.
Et ça fait boule de neige parce que au lieu que ça soit un petit groupe qui soit témoin, ben là, ça peut prendre des ampleurs quand on a 200, 300, 400 personnes qui nous suivent sur Facebook, par exemple. Ben, ça fait beaucoup d'yeux à voir sur les propos qui peuvent parfois être très blessants.
Exactement. C'est pas juste le monde dans l'autobus là qui mmh. voit. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui peuvent voir et qui peuvent ajouter, hein, qui peuvent en profiter et qui peuvent ajouter. Là.
Oui. Maintenant, on veut parler d'éducation parce que j'ai l'impression, en vous parlant, Carole Boucher, que tout passe par là. C'est en leur parlant des risques qui sont associés à l'utilisation d'Internet, puis aussi en parlant d'éducation à la sexualité qu'on peut arriver à peut-être éviter qu'il se passe des choses plus fâcheuses.
C'est sûr que la première chose qu'il faudrait faire, c'est de l'éducation sexuelle. Pour leur expliquer c'est quoi la sexualité, c'est quoi le respect des autres, le consentement. Bon, il faut leur expliquer, leur donner des réponses à tout ça. Mais il faut aussi leur expliquer ce qu'est le web, ce qu'est Internet. Donc, il faut discuter avec eux des dangers d'Internet. Il faut s'asseoir avec eux devant un ordi si c'est nécessaire et leur expliquer quels sont les dangers de cet outil-là. D'une part, il y a des petits trucs faciles. Hein. Il faut mettre l'ordinateur dans un endroit passant et non pas dans sa chambre. Plus l'ordinateur est isolé, plus c'est facile pour la personne d'avoir accès à tous ces sites-là, surtout de la pornographie. Il faut, si nécessaire, mettre un contrôle parental sur l'ordinateur. C'est possible aussi. Des fois, il y a d'autres enfants dans la maison. Ça pourrait peut-être permettre que personne ait accès, entre autres, à de la pornographie ou des trucs comme ça. Mm-hmm. Dans les écoles, ils vont à l'école jusqu'à 21 ans. Dans les écoles, il y a des contrôles, en principe, qui leur permettent pas d'aller sur des sites Internet. Il faut leur expliquer où s'en vont les informations quand on les envoie ouais. sur le web. Hein. Je reviens toujours sur ça s'en va partout, puis n'importe qui peut l'utiliser. Des fois, il faut peut-être faire des tests avec eux pour leur expliquer le mensonge. Je peux être sur un chat et je peux dire que je suis une fille, que j'ai 22 ans, que je suis blonde avec des yeux bleus, et puis c'est peut-être pas ça du tout. Alors, peut-être qu'on pourrait faire des petits tests, hein, pour leur montrer que la personne qui vient de t'écrire, ben, elle est comme ça, mais regarde, c'est moi qui t'ai écrit sur ce message-là. Donc, je t'ai menti. Donc, les gens peuvent te mentir dans ce genre de conversation, bien sûr. Puis, il faut leur dire d'accepter aucune invitation. De ne pas donner les informations personnelles et d'accepter aucune invitation. Et si jamais on voulait absolument aller rencontrer quelqu'un qui nous a invités sur le web, ben il faut leur dire que oui, je vais le permettre, mais je vais t'accompagner.
Ouais.
qu'il y ait quelqu'un de responsable qui accompagne cette personne-là dans un endroit public, bien sûr, jamais à la maison de la personne qui donne le rendez-vous. Et comme ça, on peut voir si la personne, c'est vrai ce qu'elle a dit ou c'est pas vrai, puis on est capable d'accompagner la personne dans ce sens-là.
Mais pour ça, Carole Boucher, je vous interromps parce que, évidemment, ça résonne en moi. Il faut développer, que ce soit avec le parent ou un intervenant, n'importe quel adulte, une relation de confiance.
Oui, il faut développer une relation de confiance et il faut se dire que n'importe qui peut faire ce genre d'éducation. Hein? Mm-hmm. Je ne parle pas de l'éducation sexuelle, là, mais je parle de l'éducation au web. On parle des parents, mais ça peut être quelqu'un d'autre de l'entourage de la famille. Hein? Ça peut être un frère, une sœur, un cousin, un oncle qui a comme envie d'expliquer à la personne comment ça fonctionne. Ça peut être un intervenant. Il y a toutes sortes d'intervenants. Donc, il y a plein de monde qui peuvent se mêler de cette éducation-là, de l'utilisation d'Internet, avec les personnes déficientes, mm-hmm. bien sûr.
Est-ce qu'un petit aide-mémoire pourrait être une bonne idée, c'est-à-dire ne pas donner ton adresse, ne pas donner ton nom complet?
Oui, ça pourrait être extrêmement utile. Et dans ce sens-là, je vais vous dire, il y a des corps policiers qui ont des informations, qui ont des feuillets d'informations, qui ont des pamphlets.
Oui, des fascicules d'information.
Des fascicules d'information, ouais. Des pamphlets qui sont déjà imprimés et qui donnent des formations, d'ailleurs, sur la cyberintimidation, la cyberviolence, et qui sont prêts à donner ce genre d'informations-là. Et ça pourrait servir, effectivement, à l'entourage et aux personnes qui présentent une déficience intellectuelle. Informez-vous, il y a vraiment plusieurs corps policiers qui ont travaillé sur ce phénomène-là, parce que c'est pas juste nos personnes qui présentent des déficiences qui se font avoir.
Non, hein.
Il y a toutes sortes de gens qui se font avoir dans ces choses-là.
Oui, parce que tout à l'heure, vous parliez, Carole Boucher, des chats. Parfois, on peut donner une description erronée de nous-mêmes. Parfois, même, c'est la photo qui n'est pas la bonne.
Absolument.
Alors là, ça devient extrêmement difficile de se démêler dans tout ça. Je veux revenir en terminant. Il nous reste peu de temps, Carole Boucher, parce que vous avez parlé de consentement, consentement. Et pour vous, pour moi, c'est un vocabulaire peut-être qu'on connaît davantage, mais je veux rappeler l'importance de ça, comment on peut l'aborder avec notre jeune?
Bien, il y a plusieurs façons. Il faut vraiment commencer depuis le début quand on parle d'éducation sexuelle. Il faut travailler avec les gens à ce qu'ils comprennent bien ce que sont les émotions. Mes émotions à moi et les émotions de l'autre, parce que quand il n'y a pas de consentement de la part de quelqu'un, en général, il y a comme une émotion qui est exprimée. Alors, je suis capable de comprendre que les émotions sont reliées à un consentement et que ça me permet de comprendre que l'autre, elle veut pas ou que l'autre, il veut pas, bien déjà, on a fait un pas vers cet élément-là, vers cette éducation-là. Il faut aussi apprendre aux gens que quand quelqu'un dit non, c'est non. Ça aussi, c'est à l'envers de la pornographie, ça. Hein? En pornographie, tout le monde dit oui. C'est vraiment l'envers de la pornographie. Quand on dit non, la personne ne veut pas. Ça veut vraiment dire non. Alors oui, il y a moyen de travailler avec eux autres. Il y a moyen de faire des mises en situation. Il y a moyen de les faire parler sur le sujet. Et oui, on finit par leur enseigner, je vous dirais, minimalement, ce qu'est le consentement.
Ouais.
On s'entend qu'il y a toutes sortes de manipulations possibles quand quelqu'un veut un consentement. Là, on s'entend là-dessus, mais on peut leur donner une base minimale au moins sur le fait que tu as le droit de dire non et tu dois respecter la personne en face de toi quand elle dit non.
Ouais. Et tout ça, bien sûr, dans le but, le souhait d'éviter le pire, c'est-à-dire l'abus sexuel. Et on sait, parce que vous nous en avez parlé précédemment dans d'autres entrevues, les chiffres sont effarants par rapport à ça.
Oui, tout à fait.
Carole Boucher, sexologue en déficience intellectuelle au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de la Mauricie et du Centre du Québec. Merci beaucoup, toujours un plaisir de vous parler.
Ça me fait plaisir, au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, _M.
Bernard Lavallée, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste et là pour nous parler des marques dites santé à l'épicerie, à savoir si c'est réellement un meilleur choix pour nous, pour notre famille. Et je dois me dévoiler d'entrée de jeu, Bernard. Moi, je suis tentée de m'y fier et je pense parce que je réponds un petit peu à la cible là, qui a été mise en place par les grandes surfaces, les supermarchés. C'est un petit peu faciliter la vie des consommateurs, mais maintenant, c'est savoir est-ce que c'est un coup de marketing ou vraiment c'est un bon choix santé?
Bon, mais c'est certain que c'est un coup de marketing. Dès que les compagnies vont décider de changer leur emballage, c'est parce qu'elles veulent dire quelque chose aux consommateurs et elles veulent les attirer d'une façon ou d'une autre. Évidemment, ce ne sera pas une surprise pour vous. Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par leur alimentation et par leur santé. Et donc, c'est une bonne cible pour les chaînes de supermarchés d'aller chercher justement ce côté-là de « Ah, je veux faire attention à ma santé » et donc de sortir des gammes de produits qui vont s'appeler santé, mais que finalement, quand on regarde de plus près, il n'y a pas tant de critères intéressants nécessairement avec les marques santé des supermarchés.
Donc, ça, c'est intéressant, Bernard Lavallée. Quand on y regarde de plus près, qu'est-ce qu'on devrait observer?
Bien, justement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles prédéfinies pour dire que ce produit-là est santé ou meilleur que les autres. Donc, chacune des gammes de produits santé, si on veut, va mettre ses propres critères. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas parce que la marque santé de telle compagnie, ça ne veut pas dire que le produit va être meilleur nécessairement que d'autres produits qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont dans d'autres marques. Donc, ce n'est pas nécessairement un signe que c'est le meilleur produit de la catégorie, tout simplement parce qu'il y a la marque santé. Puis, pour vous donner un exemple, Protégez-vous a fait justement l'exercice l'année dernière, si je ne me trompe pas, et 30% des aliments qui avaient justement un emballage santé ou qui faisaient partie d'une marque santé ne correspondaient même pas aux meilleurs choix, si on veut, donc les critères qui sont émis par Protégez-vous à chaque année pour les différentes catégories de produits. Il y avait 30%, donc 1 sur 3, qui ne correspondaient même pas à ces produits-là. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas nécessairement un signe que c'est meilleur.
Donc, marque santé, tout à l'heure en introduction, je le disais, c'est menu bleu, c'est équilibre, c'est mieux-être. Il y a également de plus en plus des guides étoiles, par exemple, pour tenter de diriger, d'outiller les consommateurs. Et il y a également, Bernard Lavallée, des espèces d'expressions. J'appelle ça comme ça, sans gras, sans sel, produits allégés, sans ci, sans ça, là, etc. Est-ce que ça aussi, on doit être un petit peu plus alerte?
OK. Ça, c'est ce qu'on appelle les allégations santé. Okay. Ça, c'est régi par Santé Canada.
Donc,
on ne peut pas dire n'importe quoi et c'est certain qu'il y a des règles. Cependant, ce n'est pas parce qu'un produit contient moins de gras ou pas de gras du tout, ou peu importe, qu'il est meilleur pour la santé. Ça dépend vraiment des types de produits. Il faut vraiment plus regarder la liste des ingrédients nécessairement et le tableau de valeur nutritive pour se faire une meilleure idée. Dans le fond, je pense que le message, c'est tout simplement de ne pas se lancer sur des produit tout simplement parce que c'est écrit sans gras, pas de cholestérol ou parce que ça fait partie de la marque santé, faut quand même réfléchir, faut quand même prendre le temps de regarder la liste des ingrédients.
Et je reviens à cette cible marketing-là qui est qui s'adresse à des consommateurs qui veulent prendre soin de leur santé, de celle des membres de leur famille, tout en étant efficace, rapide, parce qu'on sait la vie, ça va vite. Des petits trucs peut-être, Bernard, pour les gens qui sont à l'épicerie, qui répondent en fait finalement à ces critères-là, c'est-à-dire santé, oui, mais rapide, efficace. Si on regarde par exemple la liste des ingrédients, 2-3 coups d'œil, on se dirige vers quoi?
pour avoir une épicerie qui va être rapide et qui va être nutritive, le plus simple, selon moi, c'est un, d'aller vers des aliments qui n'ont pas d'emballage, tout simplement. Donc, déjà, d'arrêter de se casser la tête et de se dire, bon, est-ce que ça veut dire que c'est bon, ça veut dire que c'est pas bon. Acheter le plus possible des aliments qui n'ont pas d'emballage. Acheter, lorsqu'il y a des emballages, acheter des aliments qui contiennent le moins d'ingrédients possible. Donc, essayer de viser 5 ingrédients et moins dans la liste. Ça veut dire que ça va être des aliments qui sont moins transformés, qui sont plus nutritifs. Essayer de choisir également des produits où, justement, dans la liste des ingrédients, vous êtes capable de prononcer tous les ingrédients et que vous connaissez ces ingrédients-là qui sont dedans. Ça, c'est un signe quand même souvent que les aliments sont moins transformés et qu'ils sont plus nutritifs.
Ah, et bien sûr, toujours la préparation, la planification.
Bien sûr, c'est certain que d'y penser à l'avance et de ne pas arriver à l'épicerie sans y avoir pensé, c'est certain que ça va être plus rapide.
Non, c'est vraiment de très bons trucs, ça, Bernard. Également, les produits qu'on dit santé, souvent, j'ai l'impression, et vous me corrigez si je me trompe, ils sont plus chers également.
Ça dépend des types de produits, mais c'est certain que les chaînes de supermarchés, elles veulent aller chercher de l'argent avec ça, elles veulent attirer les achats et elles savent que les consommateurs sont souvent prêts à débourser un petit peu plus pour des produits qu'ils vont considérer comme étant meilleurs pour la santé. Donc, effectivement, ça ne serait pas étonnant que plusieurs de ces produits-là soient plus chers que des produits qui sont équivalents, mais qui n'ont tout simplement pas l'allégation, qui n'ont tout simplement pas un emballage santé.
Et pour continuer à aller vers cette veine-là, c'est-à-dire le plus santé possible, j'imagine que le truc, c'est se diriger encore une fois vers des aliments qui ne sont pas transformés.
C'est, je pense, le gage de santé numéro un, c'est vraiment de manger le moins transformé possible. C'est beaucoup plus rapide lorsqu'on né à l'épicerie, évidemment, mais c'est une bonne façon de sélectionner des aliments très rapidement.
Et par rapport, Bernard, aux épiciers qui lancent leur programme de santé, là, je pense par exemple, bon, il y a le Guide Étoile qui, je pense, est chez Provigo, L'Oblast, mais il y en a d'autres également chez Métro. Ça, est-ce que ça peut être un bon guide aussi ou c'est un piège encore?
C'est un peu plus intéressant parce que, encore là, de ce niveau-là, ce ne sont pas nécessairement des marques, c'est vraiment, ça s'adresse à tous les produits qui sont soumis à la même réglementation, mais aux mêmes critères, si on veut, dans la chaîne de supermarché. Le seul problème que je vous dirais, c'est que parfois, on va avoir des incohérences entre les différents systèmes. Donc, ce que ça veut dire, c'est si je vais chez L'Oblast, si je vais chez IGA, un produit pourrait avoir 3 étoiles, puis quand je m'en vais chez IGA, bien, il va avoir, je ne sais plus c'est quoi les signes, mais peu importe, un bonhomme qui ne sourit pas ou peu importe. Donc, ça peut être mêlant pour le consommateur si, bien, d'un côté, une chaîne me dit que ce produit-là est très bon et l'autre chaîne me dit que ce produit-là est moins intéressant. C'est le seul problème, si on veut, à mon avis. Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore parfait. Mais je pense que c'est quand même plus intéressant que lorsque ce sont les marques elles-mêmes qui décident de dire, bien, mon produit y est santé.
Ouais. Et pour se dépatouiller dans tout ça, on peut suivre vos précieux conseils, Bernard Lavallée, ou encore aller sur votre site nutritionnisteurbain.ca. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous parler.
Merci.
Au revoir. Jean-Sébastien Laliberté à la console, Marianne Paquette au micro. Merci beaucoup d'avoir été là. Pour nous joindre, il y a différents moyens de le faire par téléphone 1-800-361-0635, poste 220. On est également au canal m.org en rediffusion à 17h et bien présent sur Twitter et Facebook. On se donne rendez-vous dès demain, 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.